Prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela.
Hello. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. And my back is strong. Strong enough to take all the pain. Been inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah.
Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Amis auditeurs, auditrices de Là-bas si j'y suis, dans cette chronique, je vais vous parler d'une chanson qui, je crois, on peut l'appeler comme ça, est une incarnation lyrique avant l'heure d'un concept politique, et d'un concept politique largement débattu de nos temps. Je veux parler de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité qui fait couler en effet beaucoup d'encre, qui est clairement dans le collimateur de la pensée dominante, de la pensée réactionnaire. L'intersectionnalité, vous le savez, c'est la confluence combinée de plusieurs oppressions en même temps, par exemple de classe, de race, de genre, en direction d'un ou une individu ou d'un groupe d'individus, avec le lot de résistances mutuelles qui peuvent naître précisément de ces oppressions cumulées. L'intersectionnalité est un concept qui a été théorisé à la toute fin des années 1980 par une universitaire afro-féministe nord-américaine qui s'appelle Kimberlé Crenshaw, et depuis ça a fait florès dans bon nombre des rangs militants du mouvement féministe, du mouvement social, d'une partie de la gauche politique à l'échelle internationale. Et évidemment, comme toujours, une théorie avant d'être une théorie renvoie à une pratique préalable et surtout à un ressenti concret, à du vécu de la part des opprimés et des exploités eux-mêmes, raison pour laquelle il n'est pas rare que des chansons, des musiques arrivent à capter ces réalités avant les grandes théories. C'est très exactement le cas ici. Voilà pourquoi à peu près 20 ans avant que l'intersectionnalité soit couchée sur le papier au titre de concept, l'intersectionnalité a été chantée par notre champ de bataille qui date de 1966, qu'on trouve dans un album qui s'appelle Wild is the Wind, une chanson qui s'appelle For Woman, et qu'on doit pardonner du peu en termes d'autrice et d'interprète à la grande Nina Simone.
Qu'est-ce que la liberté pour vous ?
La liberté pour moi ? La même chose que pour vous, à vous de me le dire.
Non, à vous de me le dire.
C'est juste un sentiment. Peut-on dire à quelqu'un ce que c'est d'être amoureux ? Comment dire à quelqu'un qui n'a jamais été amoureux ce que ça fait ? Tu ne peux pas l'expliquer. Tu peux lui décrire des choses, mais tu ne peux pas lui expliquer. Mais tu le sais quand ça arrive. Voilà ce que je veux dire par être libre. Quelquefois sur scène, je me sens vraiment libre. Et c'est quelque chose. C'est vraiment autre chose. Je vais vous dire ce que c'est la liberté pour moi, l'absence de peur. Vraiment aucune peur. Si je pouvais ressentir cela, seulement la moitié de ma vie, pas de peur.
Alors Nina Simone, il faut quand même avoir conscience de qui elle était. C'est probablement une des chanteuses les plus célèbres du XXe siècle. On lui doit plus d'une cinquantaine d'albums. Un certain nombre de grands succès, je pense notamment à My Baby Just Care For Me, mais c'est pas exhaustif, qui a fait quand même le tour de la planète. C'est surtout une des représentantes les plus talentueuses du jazz. Musique jazz, qui est quand même une musique et un style tout à fait singulier, qui me passionne à titre personnel. Et pas n'importe quel type de jazz. Là, on parle du jazz vocal, c'est-à-dire cette déclinaison du jazz où la voix, dans la rythmique, l'emporte sur la composition musicale elle-même. Même si, pour ce qui est de la musicalité de notre champ de bataille, il faut bien dire que la composition musicale elle-même est un petit bijou. L'intervention tout à fait appropriée du piano, qui était l'instrument de musique privilégié de Nina Simone, mais de la flûte, de la basse, dans certaines interprétations. Mais c'est vrai que c'est sa voix qui emporte le tout, avec ce timbre particulier, avec ce grain particulier, avec ses intonations particulières dont elle use et abuse dans cette chanson, artistiquement, mais aussi pour surligner surligner des propos politiques, puisque cette chanson est éminemment politique. Four Women, quatre femmes, c'est le portrait de quatre femmes noires qui résume, et bien précisément, le cumul des oppressions et des résistances des femmes noires.
Four Negro women.
Quatre femmes noires.
One, each one with a different color.
Chacune avec une couleur différente.
Each one with a different grade of hair.
Chacune avec un type de cheveux différent.
And one of the women's hair is like mine.
L'une des femmes a les mêmes cheveux que moi.
Each one with a different background.
Chacune avec un passé différent.
Four women.
Quatre femmes.
Le premier portrait de la femme qui apparaît dans cette chanson, nous disent les paroles, sa peau est noire, ses cheveux sont crépus, mais son dos est fort, suffisamment fort pour endurer la douleur. Et là, évidemment, on a tout de suite, je crois, dans la rétine, la terrible allégorie des coups de fouet de la traite négrière. C'est donc le portrait resserré de l'esclave. Comment m'appelle-t-il ? Il m'appelle Aunt Sarah. Tante Sarah en français. Le deuxième portrait de cette femme noire dans cette chanson, sa peau à elle est jaune, ses cheveux sont longs, elle vit entre deux mondes, c'est la mulâtre. Son père était blanc, riche, et il a abusé de sa mère tard le soir. Comment m'appelle-t-il ? Il m'appelle Safronia.
My skin is yellow, my hair is long. Between two worlds, I do belong. You see, my father was rich and white. He forced my mama late one night. What do they call me? My name is Safronia.
Le troisième portrait, c'est le portrait d'une femme dont la peau est bronzée. Ses cheveux sont fins, ses hanches nous invitent, c'est une prostituée. Comment m'appelle-t-il ? Il m'appelle Sweet Thing, chose douce.
My skin is tan. My hair is fine. My hips invite you, darling. My mouth is like wine. Whose little girl am I? Yours if you have some money to buy. What do they call me? They call me Sweet Thing.
Quatrième portrait, c'est le portrait de la rebelle, de la résistante, on pourrait même dire de la révolutionnaire. Sa peau est brune, ses méthodes sont dures parce que sa vie était dure, son esprit est amer, sa vie était dure parce que ses parents étaient esclaves. Comment m'appelle-t-il ? Il m'appelle Peaches. Et là, Nina Simone le crie quasiment le mot Peaches parce que cette chanson finalement est un cri de révolte. Ça a tellement été un cri de révolte que cette chanson en 1966 a été censurée, boycottée sur bon nombre d'ondes de radio. Il faut dire que c'était un véritable scandale. Alors pour autant, c'est pas la première fois qu'on chantait dans le domaine du blues ou du jazz des chansons, des chants de bataille qui dénonçaient le racisme à l'encontre des afro-descendants. On en a parlé dans une chronique de nos chants de bataille. Il y a eu dès 1939 la chanson qui s'appelle Strange Fruits, ces étranges fruits qui pendent au bout des branches des arbres des États du Sud des États-Unis, c'est-à-dire les corps inertes de ces jeunes hommes noirs qui ont été lynchés par une foule de suprémacistes, notamment le Ku Klux Klan. Tout était parti d'un poème qu'on doit à un poète nord-américain communiste, Abel Meerpol, qui avait été reprise en 1939 par Billie Holiday dans un contexte de ségrégation raciale qui touchait les cabarets. D'ailleurs, cette chanson, Strange Fruits, eh bien Nina Simone va la reprendre des années plus tard.
Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Donc, c'est pas la première fois qu'on chante cette cause, mais chanter la cause des Noirs, des femmes noires, avec l'omniprésence des questions sociales, ça, c'est une nouveauté. Ça s'appelle l'intersectionnalité, eh bien, avant l'heure.
Je choisis de refléter l'époque et les situations dans lesquelles je me trouve. Pour moi, c'est un devoir. Et à cette époque cruciale de nos vies, où tout est si désespéré, où chaque jour est une question de survie, je ne crois pas qu'on puisse refuser de s'impliquer. Les jeunes, blancs et noirs, le savent. C'est pourquoi ils sont si impliqués dans la politique. Nous allons façonner ce pays, et moi, plus personne ne me façonnera jamais. Je ne crois pas qu'on ait le choix. Comment peut-on être un artiste et ne pas refléter son époque?
Et ça nous souligne à quel point Nina Simone n'est pas que cette grande artiste. Elle a été aussi éminemment engagée. Et ça, c'est souvent un peu mis de côté. Et engagée du côté des idées de la gauche radicale et même de la gauche révolutionnaire, et je n'exagère pas quand je le dis, de la gauche révolutionnaire nord-américaine. Nina Simone vient d'un milieu populaire, d'une famille nombreuse. Ils étaient 8 frères et sœurs. Ses parents étaient extrêmement religieux, pauvres également. Son père, artiste à 16 heures, était barbier. Sa mère était femme de ménage. Et en l'occurrence, c'était à la maison eh bien, que Nina Simone a été accoutumée à baigner dans une ambiance musicale. On sifflait facilement, on chantait des chansons. C'est là qu'elle a appris ses premières notes de piano. Et puis, son talent artistique et musical, elle va le développer dans l'église, précisément, où interviennent ses parents, dans un certain nombre de concerts et de récitals qu'elle va mener. Avec une première histoire de résistance, dans son engagement qui sera celui de sa vie, dès l'âge de 11 ou 12 ans, elle mène un récital. Elle mène un récital et ses parents viennent au premier rang. Or, dès que des Blancs arrivent, eh bien la ségrégation raciale veut que le couple noir aille au tout fond de la salle pour laisser précisément leur place à des Blancs. Nina Simone refuse de continuer son récital tant que ses parents n'ont pas repris leur place. Ça en dit long sur ce qui sera son engagement par la suite. Par ailleurs, l'entre-deux-mondes évoqué dans la chanson, elle l'a aussi touché du doigt à sa manière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une des patronnes de sa mère lui a permis, Nina Simone, d'être initiée au piano avec un professeur de musique particulier qui s'appelait Miss Mazzi, qu'elle a appelée ma deuxième mère, ma mère blanche. C'est elle qui va la perfectionner au jeu du piano, à telle enseigne qu'elle finira par postuler à une prestigieuse école de musique qui s'appelle l'Institut Musical Curtis, et elle ne sera pas prise. Ce sera une épreuve parmi toutes ces épreuves du racisme auquel elle sera confrontée toute sa vie. Et de cette épreuve face au racisme, elle va puiser tout son engagement, une fois que sa carrière sera lancée, en particulier avec des prestations régulières à Atlanta City. Elle sera par exemple de tous les combats du mouvement des droits civiques. On va la voir notamment chanter plusieurs hymnes militants durant la marche de Selma qui a lieu durant le mois de mars 1965. Vous savez, dans ces États du Sud qui refusent en réalité ce qu'ont été le Civil Rights qui a été adopté l'année précédente en 1964, en particulier l'inscription des Noirs sur les listes électorales. Ces grandes marches, ces grandes mobilisations, emmenées en particulier par le pasteur Martin Luther King, des manifestations qui vont être réprimées, auxquelles elle va participer. Elle va y participer fièrement, tout en affirmant son désaccord politique et stratégique de fond avec la méthode non violente de Martin Luther King. Parce que son orientation politique, ses cercles sociaux de prédilection, ses cercles culturels, ses connaissances, c'était plutôt James Baldwin, l'écrivain noir américain engagé à qui Raoul Peck a consacré un très beau film documentaire, comme vous le savez. Ça a été également Malcolm X, avant que Malcolm X soit assassiné. Ça a été des dirigeants du Black Panther Party. Ça a été également un couple dont nous avons parlé dans une autre chronique de Champ de Bataille. Je veux parler de Stokely Carmichael et de Myriam Makeba. Et surtout, ça a été des discussions régulières avec sa grande complice, Lauryn Hansberry, qui était une dramaturge noire américaine qui meurt jeune, dès l'âge de 30 ans. Et c'est avec elle, eh bien, que Nina Simone va régulièrement échanger sur l'état du monde, sur la possibilité d'émancipation du peuple noir américain, du rôle des femmes dans ce combat, dans la mobilisation et de l'importance de la question sociale.
Je suis une des personnes qui en ont assez de l'ordre social, de l'establishment, tout cela me dégoûte. Pour moi, la société américaine n'est qu'un cancer qu'il faut montrer avant de pouvoir le guérir. Je ne suis pas le docteur qui pourra le guérir. Tout ce que je peux faire, c'est montrer la maladie. Êtes-vous prêts, peuple noir ?
Are you ready, black people?
Êtes-vous prêts, peuple noir?
Are you really ready?
Êtes-vous vraiment prêts?
Are you ready to call the wrath of black gods?
Êtes-vous prêts à invoquer la colère des dieux noirs, la magie noire, pour imposer vos ordres? Les noirs n'obtiendront jamais leurs droits s'ils n'ont pas leur propre État indépendant. Si on avait une révolution armée, il y aurait beaucoup de sang. Je crois que nous aurions cet État indépendant.
To smash white things.
Êtes-vous prêts à briser les choses des blancs?
To burn buildings, are you ready?
À brûler des bâtiments, êtes-vous prêts?
Are you ready to kill if necessary?
Êtes-vous prêts à tuer si nécessaire?
Is your mind ready?
Votre esprit est prêt?
Is your body ready?
Votre corps est prêt?
If I had my way,
si j'étais arrivée à mes fins, j'aurais été une tueuse. J'aurais pris les armes, je serais allée dans le sud et je leur aurais rendu violence pour violence, fusil pour fusil. Mais mon mari m'a dit que je ne savais rien des armes et il a refusé de m'apprendre. Ma seule arme était la musique, alors je lui ai obéi. Si j'étais arrivée à mes fins, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais probablement morte. Êtes-vous vraiment, vraiment, vraiment prêt?
Je termine, amis auditeurs et auditrices de là-bas, si j'y suis, sur un des comptes rendus de ces précieuses discussions que Nina Simone elle-même avait avec son ami Hansberry. Elle disait la chose suivante: on discutait régulièrement entre nous, mais on ne discutait ni de fringues, ni de vêtements, ni d'hommes. On parlait systématiquement de Marx, de Lénine et de Révolution. Bref, on avait des vraies discussions de filles. Prenez soin de vous.
My skin is brown. And my manner is tough. I'll kill the first mother I-